carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans cette émission Carrefour des Arts. Je vous emmène à la demeure de Clémenceau, 8 rue Benjamin Franklin à Paris, où il a vécu pendant 35 ans jusqu'à sa mort en 1929. Devenu musée, ce lieu qui comprend une galerie documentaire avec de nombreux objets sur sa vie et son œuvre est resté tel qu'il était le jour de sa mort. Il a vu passer de nombreuses personnalités. Je vous propose de m'accompagner en reportage et de rencontrer Valérie Jox, administratrice. Alors nous sommes au musée Clémenceau et nous démarrons la visite par une pièce qui contient un bureau extraordinaire et je laisse Madame Jox qui nous reçoit aujourd'hui la commenter.
Oui, alors nous sommes ici dans ce qu'on appelle le cabinet de travail de Georges Clémenceau. On y retrouve un condensé de tout ce qu'il aimait, de tout ce qui lui importait, alors de tout ce qu'il aimait en matière artistique notamment. Il avait été, juste avant de s'installer dans cet appartement et de devoir malheureusement vendre l'essentiel de ses collections, mais il avait été un très grand collectionneur d'art japonais, notamment, ce qu'on sait peu. Il avait possédé plusieurs milliers d'estampes et plusieurs milliers de kogo, qui sont ces petites pièces qu'on voit là sur le bureau, qui étaient des petites boîtes à encens utilisées dans la cérémonie du thé au Japon et qui ont comme particularité d'avoir chacune, ce sont des petites boîtes en faïence, chacune un décor différent et souvent extrêmement sympathique. Voilà. Mais on voit aussi qu'il était très intéressé par la Grèce antique, donc il avait ces photos-là de bas-reliefs datent de son époque en fait, hein. Ce sont des photos qu'il avait sans doute achetées, glanées dans les musées. Il était lié avec Rodin qui a fait plusieurs bustes de lui et dont il possédait 3 plâtres originaux. Et puis surtout, il était très lié avec Claude Monet, qui était son grand ami, et qui lui avait offert notamment, enfin qui lui avait offert 3 toiles, et notamment celle dont nous n'avons plus malheureusement que la reproduction, mais qui s'appelle Le Bloc, du nom d'un journal que Clémenceau avait créé en 1901. Et cette toile est la seule pièce qui a été retirée de l'appartement après la mort de Clémenceau et elle se trouve actuellement dans les collections de la reine d'Angleterre. Voilà. Alors effectivement, on remarque ce bureau extraordinaire parce qu'il est extrêmement fonctionnel et il serait tout à fait formidable pour un usage contemporain.
En forme de U.
Voilà. En forme de fer à cheval. Hein. En fait, Clémenceau l'avait fait faire par un grand ébéniste parisien de la fin du 19e siècle. Il a été réalisé en 1884. Il est signé d'ailleurs du nom de cet ébéniste qui s'appelait Viardot. Et Clémenceau s'est inspiré pour faire réaliser ce bureau d'un bureau qu'il avait certainement vu quelques années auparavant à la bibliothèque Sainte-Geneviève qui a été inaugurée, je crois, en 1851 et qui avait recueilli notamment le mobilier, mais aussi d'ailleurs toutes les collections de livres, mais le mobilier et les objets d'art de l'ancienne abbaye de Sainte-Geneviève. Et l'abbaye de Sainte-Geneviève avait une bibliothèque en forme de croix et elle possédait un bureau qu'on peut encore voir dans le bureau du directeur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, un bureau qui lui est en arc de cercle parfait, mais qui possède comme celui-ci 8 pieds de forme Louis XV, parce que c'était effectivement un meuble de la fin du 18e siècle. Et Clémenceau, chargeant Viardot de réaliser ce meuble à la fin du 19e siècle, Viardot a emprunté au meuble 18e la forme de ses pieds, mais a donné une toute autre allure qui se rapproche de ce qu'on va connaître à la fin du 19e et au début du 20e siècle dans les arts décoratifs.
Dans ce bureau, on découvre un mur entier de livres. Quels sont les livres que Clémenceau chérissait le plus ?
Mais en fait, il était extrêmement éclectique dans ses lectures. Nous avons encore au musée près de 5000 volumes. Il lisait en plusieurs langues. Il s'intéressait énormément, je vous l'ai dit, à la Grèce et à l'Extrême-Orient. Il s'intéressait bien entendu à la politique, mais aussi à l'histoire de l'art, à la littérature. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui lui-même d'ailleurs avait une plume formidable que l'on peut apprécier de nos jours. On vient de publier la correspondance de Clémenceau et c'est tout à fait délicieux. Tout au long de sa vie, il a échangé des milliers de lettres. Il écrivait parfois, il avait un certain nombre de correspondants favoris auxquels il pouvait écrire 3 fois par jour, comme on le faisait avant le téléphone, quoi, finalement.
Voilà, donc beaucoup de livres. Est-ce que peut-être nous pourrions continuer la visite ?
En fait, c'est un appartement assez petit. Les pièces sont grandes, mais elles sont assez peu nombreuses. Et nous sommes ici dans une galerie. On appelle ça la galerie qui donne sur le jardin, parce que Clémenceau avait la chance d'avoir un jardin. Et donc, cette galerie se situe entre le cabinet de travail que nous venons de quitter et sa chambre. Et donc, il avait un jardin qui, de nos jours, n'est plus très agréable parce qu'il est bordé par deux murs pignons qui l'assombrissent beaucoup. Mais il faut imaginer qu'à l'époque où Clémenceau y vivait, il n'y avait pas ce mur pignon-là. Il n'y avait pas non plus ce pignon qui nous cache la tour Eiffel. Donc, il avait une vue directe sur la tour Eiffel et un jardin beaucoup plus ensoleillé dans lequel il cultivait des fleurs et notamment des roses qu'il échangeait avec Claude Monet. Voilà, c'était un de leurs thèmes d'échange et dans lequel il aimait à se promener avec ses amis. Il avait même installé, paraît-il, un poulailler. Des livres du sol au plafond sur deux des murs de cette galerie. Et puis sur l'autre mur, des souvenirs de Claude Monet et qui n'ont pas été installés là après la mort de Clémenceau. Hein. Il faut quand même souligner que tout ce qui est ici était là au moment de la mort de Clémenceau. Il n'a pas bougé. Hein.
Dans l'état.
Absolument, dans l'état, et ça a été classé monument historique dans les années 50. Donc on voit plusieurs portraits de Claude Monet, dont un portrait photographique réalisé par Sacha Guitry et dédicacé par Claude Monet à mon ami Georges Clémenceau. Et puis un tableau qu'on pourrait prendre pour un Monet, mais qui ne l'est pas, mais c'est une vue du jardin de Giverny réalisée par Blanche Auchaudet, qui était la belle-fille de Monet et qui a veillé sur ces dernières années, voilà, qui peignait un peu dans le style de Monet. Et dans cette bibliothèque vitrée, une photo de Clémenceau et de Monet en compagnie de Blanche Auchaudet et d'une jeune fille de leur entourage dans les dernières années, et qui a été réalisée par un photographe, Henri Martini, qui a réalisé plusieurs portraits de Clémenceau tout au long de sa vie. Voilà, alors là, nous sommes dans la chambre de Clémenceau qui est mort en ces lieux le 24 novembre 1929. Nous gardons les volets fermés pour préserver les photos qui sont suspendues au-dessus du lit et qui sont là aussi des photos de paysages, de temples et de bas-reliefs grecs. Voilà. Mais on trouve aussi dans cette chambre des souvenirs de famille, un portrait de la mère très aimée de Clémenceau quand elle était jeune fille, au-dessus du miroir. Et puis une photo des enfants, mais ça on ne la voit pas très bien, une photo des enfants de Clémenceau sur le dessus d'un petit meuble. Et c'est sur ce bureau, un autre bureau bien plus modeste que celui du cabinet de travail, que Clémenceau travaillait au petit jour. On dit qu'il était très insomniaque, qu'il se réveillait donc très tôt, que son valet de chambre lui préparait un potage ce qu'on appelle une prisée, c'est-à-dire juste un petit amoncellement de petits bois et de petites bûches que Clémenceau n'avait qu'à allumer pour que ça flambe très rapidement. Et après avoir absorbé ce potage, il se mettait au travail jusqu'à ce que la maison s'éveille. Voilà. Et il y a aussi deux autres meubles de Viardot, lits dans un style chinois, et une sorte de meuble bibliothèque armoire qui pourrait aussi servir à présenter des collections d'objets extrêmement orientaux, très à la mode à l'époque.
Donc son goût venait de la mode ou c'était vraiment quelque chose de personnel ?
C'était un peu les deux. On peut dire quand même qu'il a été un des représentants éminents de cette vogue, à l'instar des frères Goncourt qu'il avait lancé, puisque par la taille de ses collections, mais par aussi l'influence qu'il a eue, par exemple, sur la constitution de musées tels que le musée Guimet, qui était dont les collections étaient installées à Lyon et qui sont venues à Paris et il y a contribué. Et puis ensuite, après la mort d'une de ses amies qui s'appelait Madame Denry, dont il était l'exécuteur testamentaire et qui avait elle-même collectionné des collections parce qu'elle avait des moyens considérables. Son mari était un auteur dramatique et elle avait collectionné notamment donc des Kogo, des vases, enfin bon, des collections bien plus variées et bien plus considérables que celles de Clémenceau. Et elle avait construit un hôtel particulier, on appelait ça l'avenue du Parc à l'époque, et c'est l'avenue Hoche. Et elle avait construit un hôtel particulier autour de ses collections. Elle avait demandé au même Viardot, d'ailleurs, de faire de très, très belles vitrines en bois sombre incrusté de nacre provenant d'Extrême-Orient. Et au moment de sa mort, elle a voulu que cette collection devienne un musée, que donc cet hôtel particulier devienne un musée. Elle l'a donc légué à l'État, et Clémenceau a été l'exécuteur testamentaire et a fait en sorte que les vœux de son ami soient respectés. Voilà. Et c'est maintenant une annexe du musée Guimet, qui malheureusement est fermée au public depuis plusieurs années.
Donc le musée se décompose en deux parties. Nous sommes actuellement à la partie du dessous, c'est-à-dire les appartements. Et au-dessus, que nous irons dans un petit moment, sont rassemblés des documents et plutôt la partie iconographique.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, il faut raconter peut-être la façon dont le musée s'est créé, parce que en fait, quelques années avant la mort de Clémenceau, il a été menacé de devoir déménager parce que l'immeuble, enfin la propriétaire, qui était donc sa propriétaire depuis 30 ans, venait de décéder. Elle lui avait jusque-là consenti un loyer très modeste et elle l'avait donné comme instruction à ses héritiers de perpétuer cette tradition. Mais ils ne se sont pas entendus et l'immeuble a été mis en vente par adjudication. Et bien entendu, Clémenceau n'avait pas plus les moyens d'acheter l'immeuble qui n'avait les moyens d'acheter son seul appartement. Donc il s'est mis dans la tête qu'il allait falloir qu'il déménage dans une petite maison dont il n'était d'ailleurs que locataire et qui était située au bord de la mer en Vendée. Et ses amis se sont beaucoup inquiétés, il avait plus de 80 ans, en se disant que ce déménagement dans une maison inconfortable allait le tuer. Ils ont donc cherché une solution. Et c'est un Américain très admirateur de Clémenceau, il était propriétaire de mines de cuivre dans l'Arizona. Et il avait créé un petit village auprès de cette mine qu'il avait appelé Clémenceau, en hommage à Clémenceau. Et donc cet Américain a donné ordre à son homme d'affaires américain vivant à Paris de se rendre à la vente et d'acheter l'immeuble, quel que soit le prix, sans en parler au préalable à Clémenceau. Et qui n'aurait pas voulu. Et il a remporté les enchères contre le lycée Saint-Louis de Gonzague qui contigu et qui lui voulait s'agrandir. Et Clémenceau a pu ainsi finir ses jours tranquillement chez lui. Et à la mort de Clémenceau, cet Américain qui s'appelait Douglas a créé une fondation, ce qui était assez inédit quand même en France à l'époque, qui l'a doté de cet immeuble, à condition que les trois enfants de Clémenceau laisse dans l'appartement tout ce qui s'est trouvé au moment de la mort de leur père. Donc ça a été respecté, à l'exception du monnaie dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, qui avait lui une valeur énorme. Et donc depuis les lendemains de la mort de Clémenceau, c'est-à-dire depuis le début des années 30, le musée est géré par cette fondation. Et quelques années après, l'appartement qui se trouvait au-dessus, que Clémenceau n'avait donc jamais occupé, s'est trouvé libre et la fondation a décidé d'y créer un petit musée pour rassembler tous les documents qui avaient été trouvés chez Clémenceau ou ceux qui avaient été, car ça a été le cas tout au long des années, depuis cette date, ceux qui avaient été apportés au musée par des proches de Clémenceau ou des admirateurs anonymes et qui avaient recueilli ou acheté des documents intéressants. Voilà. Donc on a décidé de présenter ces documents dans une galerie documentaire.
Pour terminer la visite de l'appartement, peut-être deux derniers mots, Madame Jox.
Oui, alors bon, simplement une salle de bain qui est très amusante parce qu'elle est assez exceptionnelle pour l'époque et qu'elle témoigne du goût de Clémenceau pour, pas seulement du goût de Clémenceau, mais la formation de Clémenceau qui était médecin, comme tout le monde ne le sait pas, la formation en matière d'hygiène. Il avait une très bonne hygiène de vie et il faisait de la gymnastique tous les matins, notamment jusqu'à la fin de ses jours, avec un professeur qui venait à domicile. Voilà. Et puis cette pièce, alors, qui permet de souligner un aspect de la personnalité de Clémenceau, ça c'est la salle à manger. Elle a quand même joué un grand rôle parce que Clémenceau, pendant la période où il habitait ici de 1895 à sa mort en 1929, a été quand même deux fois président du Conseil, la première fois ministre de l'Intérieur et la deuxième fois ministre de la guerre pendant la guerre de 14. Et il n'a jamais voulu habiter, comme il aurait pu le faire, dans les ministères, parce qu'il disait qu'il ne voulait pas habiter en meublé. Et donc, il partait le matin de chez lui pour travailler à son bureau du ministère, mais il revenait pour déjeuner ici, de sorte que cette salle à manger a vu passer beaucoup de gens importants, qui étaient soit ses collaborateurs, soit des amis politiques, soit des hôtes étrangers. Enfin voilà, c'est une pièce quand même qui en a vu passer. Voilà.
Beaucoup de souvenirs dans cet appartement. Alors nous sommes à présent dans la deuxième partie de l'exposition, celle que visitent en tout premier les visiteurs. Donc qu'est-ce que l'on voit, Madame Jox? Qu'est-ce qui est important à raconter dans cet espace?
Eh bien là, nous sommes dans la première salle qui est consacrée aux années de jeunesse et de formation. Et donc on voit à travers des documents s'illustrer ce thème. Alors parmi les documents intéressants, voilà, la figure de son père, qui était médecin comme lui et qui était un républicain très convaincu, bien que vendéen, et qui a beaucoup influencé Clémenceau. Celle de sa mère qui l'a influencé plus tendrement. Voilà. Et puis un portrait de Clémenceau à l'âge de 10 ans par son père, par exemple, qui était donc dans les collections familiales. C'est ce qui il a été donné par la fille de Clémenceau après la création du musée. Des notes prises par Clémenceau au cours de ses études de médecine. Un livre d'où nous attendons avec impatience la réédition, qui sont des chroniques envoyées par Clémenceau, qui a vécu 4 ans aux États-Unis à partir de 1865. Donc de 1865 à 1870, pour gagner sa vie, il envoyait des chroniques à un journal libéral parisien de l'époque qui s'appelle Le Temps. Et c'est très intéressant parce qu'il raconte l'après-guerre de sécession. Une évocation de Clémenceau, maire de Montmartre pendant la Commune, par un petit tableau naïf. Et dans cette vitrine, quelques documents qui illustrent le rôle qu'il a eu comme administrateur de son arrondissement pendant la Commune. En particulier, il commande là, dans un billet contresigné par Blanqui, alors pour le 169e bataillon de la Garde nationale, 1500 képis.
Madame Jox, vous parliez de Montmartre. Peut-être rappelons que Clémenceau avait un dispensaire donc dans le 18e arrondissement de Paris, que les visiteurs peuvent aller voir aujourd'hui de l'extérieur, bien entendu.
Oui, je crois qu'on voit une plaque, c'est tout ce qu'on voit, oui. Oui, en effet, il est arrivé à Paris pour exercer la médecine, en fait. Et puis, il a très vite été happé par les fonctions politiques, mais il a concrètement soigné des malades. Et c'est là aussi qu'il a connu Louise Michel, d'ailleurs, qui était institutrice dans la région, dans le même quartier, et qui avait le même genre d'idées que lui, bien que plus radicales, et les mêmes combats. Et donc ils se sont liés d'amitié à ce moment-là, et c'est notamment pour la défendre, elle, qu'il militera après, enfin devenu député, après la Commune. Il s'impliquera beaucoup dans les débats sur l'amnistie et finira par obtenir le vote d'une loi d'amnistie pour les communards. Voilà. En reconnaissance de quoi, d'ailleurs, Louise Michel lui offrira un des innombrables, à son retour donc, un des innombrables carnet qu'elle avait noirci pendant son exil en Nouvelle-Calédonie, parce que elle était en fait libre de ses mouvements et pas emprisonnée, et elle est allée beaucoup dans les tribus kanak pour délivrer un enseignement aux enfants kanak, mais aussi recueillir les contes, les légendes. Elle dessinait bien, donc elle dessinait des paysages, elle a herborisé. Enfin.
Donc ce dispensaire rue des Trois Frères dans le 18e arrondissement. Les débuts de la vie politique.
Voilà, on voit Clémenceau, un portrait de Clémenceau datant de 1886 et qui est donc une petite dizaine d'années avant son installation dans cet appartement. On le voit très dandy parisien. C'est la période où il collectionne beaucoup les objets d'art extrêmement oriental. Et on en a ici un exemple. Ce sont des objets, une petite vitrine d'ailleurs, qui proviennent de la maison de son fils, Michel Clémenceau, qui a vécu très âgé, qui est mort dans les années 1862, mais qui s'était marié 4 fois. Et son épouse a vécu encore plus longtemps, puisqu'elle a dû mourir en quelque chose comme 2005. Et à sa mort, nous avons pu recueillir quelques-uns des objets que Michel Clémenceau avait conservés et qui avaient appartenu à son père. Je vous disais que nos collections se sont constituées notamment d'apports d'anonymes qui nous ont donné des objets qu'ils possédaient. Et il y a quelques années, une dame téléphonait ici et m'a dit « J'ai un portrait de Clémenceau, est-ce que ça vous intéresse ?» Alors, j'ai pris tout de suite le métro et je suis allée la voir. Elle était tout à fait charmante. Elle quittait un très très grand appartement dans lequel elle a vécu très longtemps. Elle ne savait pas du tout pourquoi la famille possédait un portrait de Clémenceau, mais il se trouve que c'était un portrait pour nous très intéressant, parce que c'est un portrait au crayon de Clémenceau dans le bureau de travail du rez-de-chaussée, et qui date, d'après l'aspect et l'âge de Clémenceau, de l'époque où Clémenceau s'est installé ici. Voilà, et on y voit encore quelques objets qu'on peut bien sûr retrouver dans l'appartement.
Une belle donation.
Cette deuxième salle est consacrée à la vie politique, grosso modo de 1876, c'est-à-dire les débuts de l'entrée au Parlement de Clémenceau, jusqu'à 1909. Et il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect Clémenceau politicien, donc avec les grandes heures de sa vie politique. On voit là la façon dont il communiquait avec ses électeurs par voie d'affiche, puisqu'il n'y avait pas la télévision à l'époque, ou bien après coup, par ce qu'on appellerait aujourd'hui un compte-rendu de mandat. On le voit ici sur cette toile parmi des personnages qui sont d'ailleurs tous identifiés. Au cirque Fernando, donc nous avons l'affiche et nous avons la toile de Raffaelli, nous le voyons expliquer, ben voilà ce que j'avais dit que je ferais, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Mais il y avait aussi les aléas de la vie politique, et Clémenceau, après s'être illustré dans beaucoup de débats très importants de son temps, dont nous avons ici les textes, a été compromis dans l'affaire de Panama et a perdu son poste de député à l'époque. Il a été compromis parce que parmi les commanditaires d'un journal qu'il avait créé quelques années auparavant qui s'appelait La Justice, il y avait le principal escroc compromis dans l'affaire de Panama qui s'appelait Cornelius Hertz. Et les ennemis politiques de Clémenceau ont prétendu que Clémenceau était complètement vendu. Les clémencistes ardents vous diront que c'était une assertion tout à fait mensongère. Enfin, toujours est-il qu'il a dû quitter le Parlement et à ce moment-là se reconvertir dans quelque chose qu'il avait toujours exercé, c'est-à-dire le journalisme, mais qui avait eu une importance moindre dans sa vie quand il était par ailleurs élu et un élu important. Et il a exercé ses talents de journaliste, notamment et de la façon la plus éclatante, pendant l'affaire Dreyfus, qui survient quelques années auparavant. Il était à l'époque un des éminents collaborateurs de l'Aurore, mais il collaborait aussi à d'autres journaux, et il a, pendant l'affaire Dreyfus, publié 665 articles qu'il a réunis par la suite en 7 volumes. Et il a eu le courage d'ailleurs de mettre en tête du premier volume les 3 ou 4 premiers articles qu'il avait publiés à l'époque où il était, comme 99% des gens, persuadé que Dreyfus était coupable, puisque l'armée ne pouvait pas proférer des accusations aussi graves contre quelqu'un, contre un de ses officiers, sans qu'il soit coupable. Voilà. Puis bien entendu, il a été très vite, enfin pas bien entendu, comme on le sait, il a été très vite convaincu de l'innocence de Dreyfus par son avocat, par son frère, et il s'est battu de façon acharnée. Voilà. Et c'est aussi lui, tout le monde ne le sait pas, qui a trouvé le titre « J'accuse » pour l'article pour le papier apporté par Zola à l'Aurore. En fait, il n'a pas inventé Clémenceau le « J'accuse ». Le « J'accuse » se trouve répété à 3 reprises à la fin de l'article. Mais Zola avait intitulé son texte « Lettre à Monsieur Félix Faure, président de la République », ce qui n'était pas très vendeur, et Clémenceau avait au fond un sens de la, pas de la publicité, mais voyez, du titre qui frappe, quoi. C'est un des premiers exemples de titre de presse particulièrement accrocheur et du coup resté inoubliable.
« La visite s'achève bientôt. Est-ce qu'on pourrait dire un dernier mot? Vous vouliez nous commenter un dernier objet ou un dernier manuscrit? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. On ne peut pas faire le tour de tout.
Peut-être l'objet le plus emblématique de cette dernière salle qui est consacrée plutôt aux années 1910 jusqu'à la mort de Clémenceau, c'est dans une vitrine le costume qu'il portait dans ses visites au front, qui est composé donc d'un lourd manteau descendant très bas, de bottes avec des guêtres, d'un chapeau mou et d'une canne. Il a commencé ses visites au front bien avant d'être président du Conseil et ministre de la guerre, à partir de 1917. En fait, il était auparavant président de la commission sénatoriale aux armées. Et donc, bien que déjà très âgé, on le voit là sur cette photo, il a fait de très très nombreuses visites au front pour se rendre compte notamment de la condition faite aux soldats, aux poilus, condition qu'il a d'ailleurs commencé à dénoncer dans un journal qu'il avait créé quelques années auparavant et qui s'appelait L'Homme libre. Et comme ce journal a été du coup très censuré par la censure militaire, de rage, Clémenceau l'a rebaptisé L'Homme enchaîné. Et on a donc là deux exemples, enfin une de L'Homme libre et une de L'Homme enchaîné, avec les grands placards de la censure. On ne voit plus que le titre de l'éditorial de Clémenceau et sa signature.
C'était donc l'émission La demeure de Clémenceau, une émission avec Valérie Jox, administratrice de la Fondation du musée Clémenceau, qui nous recevait au 8 rue Benjamin Franklin à Paris, où a vécu pendant 35 ans Georges Clémenceau, qui a été élu à l'Académie française en 1918 et qui fut un illustre homme politique, journaliste, écrivain et bien d'autres. Vous pouvez retrouver également une autre émission qui concerne des souvenirs de famille de Georges Clémenceau par Lise Devinat, arrière-petite-nièce de Georges Clémenceau, qui nous ouvre les portes de sa demeure à Meudon.